il y a un patient qui rentre juste devant nous.
Donc c'est un patient qui a 63 ans, je crois, de mémoire, hypertendu, diabétique, obèse, enfin en surpoids, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir un gros sommet.
Depuis le printemps dernier, les hôpitaux français affrontent l'épidémie de Covid. Le virus a déjà tué plus de 40 000 personnes en France et la deuxième vague, arrivée fin septembre, a donné le signal d'une nouvelle mobilisation générale. Même si on en sait plus désormais dans les hôpitaux sur la prise en charge des malades, celle-ci reste très lourde. Et si la disponibilité d'au moins un vaccin est annoncée pour le début de 2021, la maladie, dont on connaît peu de choses, suscite l'inquiétude et parfois la peur dans la population. Dans les services en première ligne, les médecins font face, comme à Saint-Étienne, dans la Loire, où Vanessa Descoureaux a posé son micro pendant 48 heures.
Les hôpitaux ont été sous pression pendant la première vague. Tout l'été, ils ont essayé de rattraper le retard dû à la première vague. On attaque la deuxième vague et on va commencer à rattraper le retard de la deuxième vague après. Ce qui fait qu'il n'y aura vraiment pas eu de repos sur toute l'année 2020-2021. J'espère que les troupes vont tenir le coup.
Car la région Auvergne-Rhône-Alpes est cette fois-ci l'une des plus touchées du pays. La semaine dernière, dans la Loire, le taux d'incidence était de 594 malades pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale était de 283. Et la semaine précédente, Saint-Étienne affichait un taux d'incidence de 1200. Des chiffres qui ont par exemple motivé le transfert d'une petite trentaine de patients du CHU de Saint-Étienne vers d'autres établissements du nord-ouest de la France. Les malades sont très durement frappés, les soignants sont très éprouvés, tout l'univers hospitalier est sous tension. Et il est difficile d'imaginer, pour qui n'a pas été directement touché, à quel point le danger reste prégnant.
Faites attention à vous, soyez très 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 prudents. On ne se rend pas compte quand on n'est pas à l'hôpital. Quand on est à l'hôpital, on se rend compte comment on souffre, comment on a mal, combien on peut avoir peur.
Malgré ce contexte très tendu, les responsables de l'hôpital de Saint-Étienne ont accepté d'ouvrir leurs portes à Vanessa Descoureaux. La voici au service de réanimation du CHU.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Allez-y, je
t'en prie. J'enlève mon masque. Qu'on mette un autre masque. Propre et moins contraignant. Voilà.
Eh bien, bonjour.
Bonjour, bienvenue. Hop,
merci, merci pour l'accueil.
C'est pas le Covid.
Moi, je m'appelle Guillaume Thierry, je suis responsable du service de médecine intensive réanimation ici au CHU de Saint-Étienne et je suis donc professeur de médecine intensive réanimation à l'université Jean Monnet.
Je vous retrouve après votre garde cette nuit. En quelques mots, comment ça s'est passé cette nuit ? Avant de tout raconter à vos collègues qui vont assurer la journée.
Ça s'est plutôt bien passé parce que, pour une raison assez mystérieuse, il y a moins de patients depuis 3 jours.
On va aller voir tout
ça. Et ça, c'est la vie de l'AREA.
La vie de l'AREA, c'est aussi des changements soudains. 2 jours après notre passage, le service croule à nouveau sous les patients.
Salut.
Ça va ?
Bonjour. Bonjour, monsieur Thierry.
Monsieur Pierre Albon.
Vous allez bien ?
Oui, très bien et toi ?
Bien.
Ben vas-y, quand Anthony commence.
Secteur de chambre 6, donc monsieur.
Madame. Parti en sucette mardi soir et décédé pendant la garde de Patricia dans la nuit de mardi à mercredi. Ouais. Madame Cœur aussi est décédée dans la journée de mardi. En fait, ce qui a rassuré son fils, c'est qu'il pensait qu'on voulait faire de la place et que donc on allait faire un arrêt thérapeutique pour faire de la place. Et quand Patricia lui a montré que non, regardez, là, il y a une chambre vide, une deuxième chambre vide, c'est pas une question de place, il a dit, ah bon, ben dans ce cas-là, ça me va très bien. Bah oui, mais c'est pas incompréhensible. Je pense que les gens sont tellement matraqués par l'information selon laquelle ils manquent de l'hydréa que dès qu'on en parle d'arrêt thérapeutique, ils disent, ah ben, ils veulent faire de la place pour d'autres.
Et c'est vraiment pas la première famille. Ouais. Et je pense que c'est tellement sous-jacent et ils mettent tellement de temps à nous aborder leurs interrogations là-dessus parce qu'ils osent pas nous le dire qu'à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut penser à évoquer assez rapidement.
Ouais. Après, ben, il va très bien. Il fait des CEDO depuis toute la journée. Et là, il a 4 litres d'oxygène, il prend son petit-déj. Donc il faut qu'il parte plutôt au A2 parce que quand il bouge, quand il fait sa toilette, il désature un peu, mais lui, il peut partir. Après, bah, au 10, il n'y a personne. Et au 20, il y a monsieur.
Lui, sur le plan respiratoire, on est plutôt sur du sevrage respiratoire. En tout cas, pour lui, le projet, ce serait faire le fauteuil aujourd'hui et possiblement un projet d'extubation si tout va bien demain.
Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Ouais. On est passé quand même pas très très loin de la cata et on est content que ce ne soit pas la cata. Monsieur est sur ses derniers jours, malheureusement. Donc hier, en fait, on a fait venir sa famille. Donc, ses 5 enfants et sa femme sont venus, ils l'ont vu. Depuis, il est à peu près stable, mais il perd un point de saturation toutes les 2 heures à peu près. Quoi. Donc je pense qu'il faut peut-être les rappeler, qu'ils reviennent. La question se pose de, est-ce qu'il faut arrêter quelque chose? Est-ce qu'il faut laisser les choses se... Il est plus dialysé, donc sa calémie va monter. Enfin, de toute façon, bon, même si on ne fait rien, c'est l'affaire de 48 heures. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis ta garde de samedi qui était apocalyptique, après, du coup, c'est calmé.
Au-delà du fait que j'ai éloigné mon karma, tous les autres services de Réa ont pas mal de lits qui se sont libérés. Enfin, on a l'impression que tout le monde a un espèce de... J'ose pas dire le mot. Une parenthèse.
Sauf Chambéry qui ont l'air d'être... Chambéry, on l'a l'air un peu dans le souci.
Nous entrons dans le service de réanimation. On imagine volontiers un univers calme, feutré, interrompu seulement par le signal des machines, mais c'est tout l'inverse. C'est le tourbillon, bruyant, c'est un endroit où le temps semble s'évaporer tant il passe vite.
Alors moi je suis Sophie Périnel, je suis médecin dans le service, je fais aussi de l'enseignement. Et ça je travaille depuis on va dire 4 ans à peu près dans le service.
Très concrètement, après une réunion de transmission comme celle à laquelle on vient d'assister, qu'est-ce qui se passe pour vous?
Alors, la première chose, c'est qu'on va faire un peu le plan de bataille de la journée. Et on va communiquer avec l'interne, les infirmiers, les aides-soignants pour voir un petit peu quel est le travail à faire et surtout comment on l'organise dans la journée. Donc là, par exemple, aujourd'hui, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller juste derrière sur le tableau où il y a tous les patients du service qui sont répertoriés et on va regarder qui sont les patients à retourner parce qu'on essaye de ne pas faire plusieurs patients qu'on retourne en même temps. Si jamais il y a une complication, ça évite que les équipes soient occupées de partout en même temps. Donc en termes de sécurité, on fait une espèce de planning et toutes les demi-heures, il y a un patient qui peut être retourné.
Pourquoi les retourner sur le ventre ?
Alors, ça nous sert parce que bah, les êtres humains sont faits pour être debout et quand on les couche dans un lit pendant plusieurs jours, les parties qui sont contre le lit des poumons respire beaucoup moins bien. Et avec l'agression des poumons par le Covid et par les bactéries qui se mettent dessus, et ben ces zones de poumons, elles ne respirent plus du tout. Et en changeant la position du patient, ça va nous permettre en fait tout simplement de remettre de l'air dans les parties des poumons qui n'en avaient plus. Et c'est un des éléments qui améliore le plus les patients quand on les a mis sous anesthésie. La réanimation, bonjour. Oui, tout à fait. Ben, ça tombe bien. Je suis le docteur Périnel, je suis le médecin de l'unité. J'allais vous appeler ce matin parce que les nouvelles sont plutôt bonnes. En fait, il va sortir du service aujourd'hui. Exactement, il va retourner en pneumologie parce que là, on a pu bien baisser l'oxygène. Il est sous 4 litres, donc c'est plutôt bien. C'est à peu près comme il était quand il était en pneumologie. Ah, non, j'étais pas au courant. Et lui, il est au courant? D'accord. Mais vous inquiétez pas là-dessus, le médecin, sa priorité, ça sera sa sécurité à lui. D'accord? De rien, bonne journée. Vous aussi, au revoir.
Deux facettes du même métier à quelques minutes d'intervalle. Tout à l'heure, vous êtes isolé pour donner un coup de fil beaucoup plus désagréable que celui que vous venez de recevoir. À chaque fois, ce contact avec la famille, ça doit être bouleversant quand même.
Oui, et à la fois, c'est quelque chose qui est très important dans notre métier parce que finalement, il y a toutes les machines, mais ça nous permet d'avoir l'humain qui reste au centre. Et après, là aussi, on ne sait jamais comment les choses vont se passer. Là, j'étais plutôt très contente de l'appeler et de lui donner des bonnes nouvelles, effectivement, parce qu'il y a un gros contraste avec le patient d'à côté. Et pour autant, elle m'a annoncé que la maman du patient est décédée du Covid aussi. Il va y avoir les procédures après le décès. Là, ça va être un enterrement. Et qu'est-ce qui va se passer pour la personne hospitalisée? Et là, c'est une question qui va être au centre avec une famille qui se déchire autour de ça, entre ceux qui veulent que le patient puisse aller à l'enterrement et ceux qui pensent que sa sécurité doit passer avant. Et donc là, nous, en tant que médecins, on a un rôle très important. parce qu'à la fois, il faut qu'on puisse les écouter, mais il faut aussi qu'on puisse ramener la sécurité du patient au cœur de la discussion dans la famille, parce que finalement, c'est la seule chose qui leur permettra d'arriver à accepter une situation qui sera ce qu'on pourra faire à cet instant T, quoi.
Là, il y a un patient qui rentre juste devant nous.
Donc, c'est un patient qui a 63 ans, je crois, de mémoire, hypertendu, diabétique, obèse, enfin en surpoids, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir un gros surpoids.
Donc le monsieur qui vient d'arriver dans le service de réa reçoit son oxygène de manière non invasive, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas intubé. Il y a eu pour le mettre en chambre un médecin, un interne et plusieurs infirmières qui sont toujours autour de lui. Voilà, on a vu que le monsieur évidemment était assez paniqué devant l'agitation autour de lui pour l'installer dans cette chambre où il est tout seul, bien évidemment. Mais ça y est, il semble apaisé. En tout cas, il ne tremble plus comme ce fut le cas au début.
J'y suis.
T'as pas besoin d'aide, non ?
Je m'appelle Marie et je suis aide-soignante. Je travaille ici depuis mai 2018. Le travail aide-soignant, c'est un travail essentiellement de base de nursing, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur faire des soins, mais aussi prendre soin du patient. Donc on leur prodigue leur toilette, bien sûr, et puis on s'assure aussi de leur confort, que l'état cutané soit satisfaisant. On travaille en binôme avec nos collègues infirmiers, donc du coup, on est plus aussi sur une aide de soins un petit peu plus technique. Et puis, malheureusement, les visites sont quand même lourdement limitées, donc on a aussi des liens avec les familles. Voilà, on essaye de les rassurer, de leur expliquer de manière très simple les soins qu'on prodigue pour que ça puisse vraiment leur parler et qu'ils soient quand même au courant voilà, de l'état de santé de leurs proches.
Ça, c'est quand même une grande différence par rapport à la première vague, c'est que les familles peuvent venir. Alors, c'est dans certaines conditions, c'est évidemment pas tous les jours, mais certaines familles peuvent venir voir leurs proches ici hospitalisés. Ça, c'est un grand changement quand même.
Oui, et puis c'est quelque chose, nous, auquel on tient aussi énormément parce que voilà, les patients qu'on accueille sont quand même dans des situations extrêmement critiques. Et c'est vrai que les familles, eh ben, ça leur fait du bien, même si leurs proches sont parfois énormément équipés. Hein. La réanimation, c'est quelque chose de très technique. Il y a beaucoup de cathéters, il y a beaucoup de fils, il y a beaucoup de bruit. Donc ça peut aussi parfois
extrêmement
être
impressionnant.
Ouais, ça peut aussi parfois être un petit peu apeurant. Mais du coup, je pense que les familles, ça leur fait du bien aussi de voir dans quel environnement évoluent leurs proches. Et puis de mettre aussi un visage sur les personnes qui s'en occupent, c'est très important. Moi, je pense que c'est aussi, ça fait partie du soin.
C'est un service dont on a l'habitude de dire qu'il est à part dans l'hôpital, mais c'est un service aujourd'hui où, pardon de le dire aussi crûment, mais il y a beaucoup, beaucoup de morts et la mort est quasi quotidienne, ce qui n'est pas votre quotidien normalement. Comment vous gérez ça ?
C'est pas la tâche la plus facile. On se serre quand même beaucoup les coudes. On est une équipe, je trouve, qui est assez soudée. On rediscute aussi parfois de ces moments de fin de vie qui peuvent être un petit peu compliqués à gérer. Ça fait partie de notre travail, malheureusement, et on essaye d'humaniser ce soin-là parce que c'est vrai que dans les conditions actuelles, et ben parfois nos patients partent seuls, entre guillemets, c'est-à-dire sans leur famille auprès d'eux, même si on essaye le plus possible que ça soit le cas.
Parce qu'en résumé, le protocole est tellement strict que vous êtes la dernière personne à fermer la housse mortuaire et la famille ne le voit pas, en fait, c'est ça, hein, très concrètement.
C'est ça, ah ouais, c'est ça exactement. Donc c'est sûr qu'en tant que soignant, même si ça peut faire partie de notre métier, c'est quand même un soin qui est extrêmement particulier. On est vraiment là pour les derniers instants de vie. Il faut prendre un petit peu sur soi aussi parfois et on est content de rentrer à la maison et de voir nos proches et de voir autre chose dans ce genre de conditions.
Alors, il y a un patient qui va sortir en tout début d'après-midi, mais a priori, il y en a deux autres qui pourraient rentrer. Et il y a même question de deux autres, en tout cas, qu'il faut examiner en vue d'une éventuelle admission ici en réanimation. Donc, tout va très, très vite.
Ils sont en train de l'intuber. Donc ça veut dire qu'il y avait sûrement quelque chose au niveau respiratoire et qu'il respirait plus suffisamment bien par lui-même. Donc là, il a été endormi. Et donc là, c'est l'interne qui est en train d'exposer, donc avec le petit appareil qu'il a dans la main, les cordes vocales du patient. Et puis le début de la trachée pour pouvoir lui poser la sonde d'intubation. La majorité des patients ici sont quand même intubés à l'heure actuelle.
Donc la première tentative d'intubation n'a pas été la bonne. C'est une étape difficile.
C'est pas toujours un geste facile, hein. Surtout qu'on n'est pas toujours aussi expérimenté. Donc là, du coup, c'est le chef qui a repris la main. Il a réoxygéné un petit peu le patient et puis finalement, il a réussi à placer la sonde. Donc là, a priori, c'est bon. Eh ben non. Les yeux fixés sur la saturation, donc là qui est autour de 70%. C'est chaud. Hein. On a 58% de SAT. Donc les malades du Covid, ils n'ont pas toujours beaucoup de réserves. 44% de SAT. Donc, c'est vraiment une intubation difficile. Hein.
Insoutenable de voir ce chiffre baisser quasiment toutes les secondes, toutes les 5 secondes.
C'est stressant. On va reventiler le malade un petit peu de façon manuelle pour essayer de lui améliorer un peu son oxygénation.
Voilà, qui aussitôt repasse au-delà des 60-65%.
Voilà. Ouais, là, ça
remonte. Ouais. Nouvelle tentative.
Voilà. Voilà, 97% de saturation, malade réoxygéné.
Il n'y a pas de membrane, il faut un membrane. Il est là. Il est par terre. Au fond. Ok. T'as chaud?
Ça faisait longtemps que la peine qui passait.
Ouais, ça
va. Youhou. On peut respirer. Cette fois-ci, c'est bon.
Vous êtes interne?
Oui. Ben, c'est notre deuxième semaine. Donc autant dire que tout ça, c'est tout nouveau pour nous. On a un peu l'impression d'être au cœur du combat en ce moment. D'être au cœur du combat, de se sentir utile et d'avoir un métier passionnant en plus de ça, quoi.
Compliqué cette intubation, très compliqué.
Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une difficile comme ça, mais là, il y avait une toute petite ouverture de bouche. Je voyais rien du tout, donc il a fallu que j'intube un peu à l'aveugle. C'est pour ça que j'ai dû m'y reprendre à trois fois. D'habitude, on intube du premier coup, quoi, mais là, ça voulait pas y aller. Quoi. Non, mais ça y est, là, c'est bon, ça va aller, mais...
Ouh. Moi, quand je suis venue ce matin, on m'a dit, vous avez de la chance, c'est une matinée calme.
C'est le principe de la réa, quoi, c'est que... Il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand. C'est bien pour ça que les gens, vous avez vu, ils sont surveillés comme le lait sur le feu. Donc, parfois, c'est calme. Et puis, il suffit de quelque chose qui va être un geste banal de réanimation, d'intuber quelqu'un. Mais même si c'est banal, c'est pas pour autant que c'est facile à chaque fois. On peut, ouais, le service, il peut basculer d'un moment à un autre avec un malade qui est admis, qui va pas bien, un malade qui est déjà dans le service, qui fait une complication qu'on n'avait pas anticipé. Et de calme, ça peut passer à agité. De la même manière que là, ça s'est agité d'un seul coup, puis ça peut redevenir calme en 5 minutes. Quoi.
Bon, je vous laisse profiter de votre pause après cette difficile épreuve. Merci, docteur.
Je vais aller me prendre une douche.
Merci.
Interception. Sur France Inter.
Nous retrouvons le professeur Guillaume Thierry. On s'est isolé de votre service de réanimation que vous dirigez quelques instants. On a quitté la ruche pour être plus au calme dans votre bureau pour discuter de plusieurs points avec vous. Il y a le travail, on va dire, plus évident qui est le vôtre, c'est-à-dire de suivre vos patients qui sont admis ici à côté de nous dans votre service de réanimation. Et puis il y a tout ce travail aussi, ce téléphone qui sonne de manière incessante de vos collègues qui veulent savoir si tel ou tel patient peut être réanimé. C'est ça aussi l'autre aspect de votre travail?
Alors oui, c'est l'autre aspect, c'est l'aspect premier du travail, c'est-à-dire décider quel patient aura une place en réanimation et quel patient n'en aura pas. Alors la question se pose pas pour des patients jeunes et des patients qui clairement ont une indication d'aller en réanimation, ça on se pose pas la question. La question se pose de savoir si une admission en réa est un bénéfice ou pas pour des patients qui sont âgés ou fragiles ou vraiment dans des situations de vie assez dépendantes. Tirer bénéfice d'un séjour en réanimation, c'est quoi? C'est d'abord survivre, mais c'est aussi survivre a un coût humain, physique, psychologique aussi, qui soit acceptable. Et si finalement la réanimation doit conduire, après X semaines de réanimation, à créer en quelque sorte des patients totalement dépendants pour tout, qui se remettront pas ni physiquement ni psychologiquement de leur séjour en réanimation, est-ce qu'on aura fait quelque chose qui est bénéfique pour le patient? Et au fond, pour moi, mais pour pas mal de mes collègues, c'est la partie la plus difficile du métier.
C'est-à-dire dire non plusieurs fois par jour, en gros. Non, il ne viendra pas chez moi en rien.
Dire non ou dire oui. C'est-à-dire que arriver à identifier les patients chez qui on va vraiment rendre, à qui on va rendre service. Un médecin tout seul peut pas produire une décision éclairée. Alors, certaines décisions sont plus simples à prendre et on les prend finalement en binôme avec le médecin référent du patient dans le service dans lequel il est. Mais pas mal de décisions sont le résultat d'une réflexion entre plusieurs réanimateurs, des jeunes, des vieux, des... Et puis une vision aussi transprofessionnelle, parce que les infirmières ont pas la même vision que nous. Elles ont une autre approche du patient. Souvent, elles ont une approche du patient, de sa famille, de son environnement qui est plus précise que ce que nous on peut avoir. Et c'est dans cette collégialité qu'on arrive à produire une décision. On espère qu'elle est bonne, mais en tout cas, elle est fondée et elle est partagée.
C'est dans le cadre de la prise de décision de non-admission que ça doit être dur à encaisser.
Autant on est très habitué à prendre ces décisions, mais en général, c'est une décision singulière et puis ça peut arriver quelques fois par jour.
Mais là, c'est en série.
Mais là, c'est en série et ça peut arriver 20, 30, 40 fois par jour de prendre ces décisions-là. Alors, c'est difficile, techniquement, et puis c'est humainement très éprouvant. C'est-à-dire qu'on sait très bien que pour un certain nombre des patients qu'on ne prendra pas en réanimation, ça veut dire qu'ils vont être dans les derniers jours de leur vie ou les dernières heures de leur vie. Et donc, on ne se sent pas responsable de ce fait-là. On se sent quand même impliqué dans le fait que pour ces patients, c'est la fin de vie qui commence.
Une matinée comme celle-ci, par exemple, pour qu'on réalise bien ce que ça représente, c'est combien de coups de fil pour vous questionner justement sur ces points-ci ?
Là, une matinée comme ce matin, c'était 7 ou 8 coups de fil en 3 heures. Avec évidemment plein de décisions difficiles, de gens pas très vieux mais qui ont d'énormes problèmes par ailleurs, ou de gens âgés mais qui n'ont pas trop de problèmes. Et voilà, donc c'est à peu près ça, 7 ou 8 ce matin.
Pour combien d'admissions ?
Pour au final, une ou deux. Voilà, il y a des patients qu'on a mis un peu en attente et qu'on ira revoir cet après-midi pour aller les revoir à plusieurs. Voilà, une ou deux.
Alors n'hésitez pas, dès que vous trouvez un petit cheat de solution pour l'alcoolique.
Alors là, on rentre dans un sas pour s'habiller, pour aller voir une patiente qui est plutôt stable, vous me disiez ?
Tout à fait, qui est dans la phase où elle a été bien améliorée, notamment parce qu'elle a été mise sur le ventre. Et donc là, on est dans la phase de réveil. Et l'objectif, c'est que son état respiratoire reste stable en la réveillant.
Donc on va s'équiper tout d'abord.
Ça se met comme ça. Moi, je vous conseille de faire le nœud d'abord.
Comment on va voir, en fait ?
Chacun sa technique.
Ouais, c'est ça. Et là, sur vous, ne pas oublier de boucher au poissonnier comme on préfère.
Alors, normalement, tout ce qui rentre dans les chambres de patients ne ressort que dans la poubelle. Vous ne ressort pas.
Vous nettoyez ?
Vous nettoyez.
C'est pour ça que j'ai équipé mon enregistrement d'une Charlotte. Nous sommes prêts.
Si tu nous entends, serre la main.
Ok.
Est-ce que tu peux ouvrir les yeux ? Ok, je vois que tu essayes, c'est très bien.
Les médecins tentent de la faire respirer par elle-même. Elle tousse, semble agitée. C'est une réaction impressionnante, mais normale.
Donc là, comme la patiente est en train de se réveiller, on est en train de changer un petit peu le respirateur pour qu'elle puisse commencer à respirer plus par elle-même. Et donc, il faut un petit temps d'adaptation, raison pour laquelle voilà, ça fait un peu tousser la patiente. Il y a tout un tas de petites choses au niveau des alarmes à surveiller. Et donc, on va profiter d'un temps où on va rester un peu dans la chambre pour voir comment ça se passe, pour essayer de faire ça ce matin.
C'est une patiente très très jeune.
Oui.
Elle a 21 ans.
21 ans.
Malgré son jeune âge, son dossier médical est lourd.
Quand vous dites que ça peut prendre un peu de temps, une phase de réveil, c'est combien de temps à peu près ?
On essaye de se poser la question tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, parce qu'on sait que chaque journée où le patient reste intubé en plus, c'est des risques d'infection. Donc on essaye de se reposer la question tous les jours. C'est pour ça qu'on n'aime pas parler de durée. Après, les patients qui souffrent du Covid, on sait que ça prend du temps et que au moment où on lève l'anesthésie, ce sont des moments où il y a de gros risques que les patients se réaggravent sur le manque d'oxygène. Et donc, on sait qu'il faut se montrer prudent et patient chez ces patients, peut-être plus que d'habitude. Et après, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire que les infirmiers nous aident beaucoup sur l'évaluation fine du patient, parce qu'ils les voient plus longtemps que nous dans la journée. Et les kinés, par exemple, là, vont avoir un rôle majeur, puisqu'ils vont venir nous aider pour le désencombrement. Quand elle tousse, comme ça, elle a des sécrétions, il faut qu'on l'aide à les faire sortir par différents moyens. Et puis pour la mise au fauteuil. Parce que dès qu'on remet les poumons en position verticale, ça nous aide pour le sevrage de la machine. Et tout ça, ça va nous faire un petit peu faire des pas en avant.
Mais qui s'étudie jour après jour, en fait, chaque jour.
C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui a pas mal changé. C'est-à-dire que les patients Covid nous ont fait faire tellement de pas en arrière et un grand nombre de fois, on a cru qu'on était au moment du sevrage et ça, les patients se comportent différemment des autres pathologies qu'on connaissait. Donc voilà, on se redemande tous les jours, mais on sait que chez ces patients, ça va être souvent plus compliqué que d'habitude.
Là où sur d'autres pathologies, c'est plus progressif, où vous voyez le réveil arriver en gros, c'est
voilà,
ça.
Voilà, le réveil est parfois plus simple sur d'autres pathologies où une fois qu'on a traité la pathologie, ben, on rentre dans la phase de réveil et ça suit un cours plus habituel. Chez les patients qui souffrent du Covid avec la toux, avec le fait que c'est une infection qui est très lente dans le temps, on sait que ces patients ils prennent plus de temps que d'habitude.
Le lendemain, la jeune femme sera extubée.
Alors, le déshabillage. Le principe, c'est qu'on tire tout, couper tout ce qu'il y a dans le dos, et après on met tout à l'envers, comme ça, dedans.
Dans ce service, un autre patient retient l'attention pour son âge, 35 ans.
On quitte la réanimation pour le service névralgique de l'hôpital, celui des maladies infectieuses. Face à l'ampleur de l'épidémie, des unités Covid ont été créées ex nihilo un peu partout dans l'établissement. Et outre la prise en charge directe des malades, les infectiologues se sont mobilisés pour former leurs collègues. Ce sont eux qui en savent le plus sur le virus. Ils doivent donc transmettre leurs connaissances.
Donc ici, vous voyez la photo de la tenue apportée donc au contact des patients. Donc la charlotte, la surblouse et le tablier. Toutes les procédures d'habillage et déshabillage sont visibles sur intranet avec vidéos dont voici les liens. Je crois que c'est important que vous les consultiez avant d'arriver dans les unités Covid.
Une fois par semaine, des formations sont organisées. Aujourd'hui, c'est en visioconférence sous la direction d'Amandine Gagne-Brunon.
Alors moi, je suis MCUPH, c'est-à-dire maître de conférence en maladies infectieuses au CHU de Saint-Étienne. Et donc, j'ai une activité à la fois d'enseignement, de recherche et surtout hospitalière à l'heure actuelle.
À quoi ça sert ces réunions d'information ?
Alors la première chose, c'est qu'effectivement, la Covid-19 est une maladie infectieuse émergente, donc finalement elle surprend tout le monde. Habituellement, ces pathologies émergentes sont prises en charge par des infectiologues et puis lorsqu'elles s'aggravent par les réanimateurs qui ont bien l'habitude. Malheureusement, l'afflux de patients dans les hôpitaux fait que on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir les prendre en charge en tant que spécialistes. Et donc, il faut qu'on permette à nos collègues non spécialistes de bien prendre en charge ces patients et surtout de se sentir en sécurité en prenant en charge ces patients. Et donc, il faut qu'on leur apprenne les petites choses qui leur permettent de bien vivre leur quotidien dans les unités Covid. Qui accueille des patients dans tout l'hôpital.
Vous savez combien de personnes vous avez réussi à toucher comme ça par ces réunions ?
Alors en moyenne, en formation présentielle sur les 3 premières séances, on a dû former presque une centaine de personnes. La semaine dernière, on avait plus d'une vingtaine de participants en distanciel. Après, c'est un peu difficile puisque derrière l'écran, on ne sait pas combien on a de personnes. Parfois, plusieurs personnes sont derrière le même écran à nous regarder et à échanger. Cette semaine, peut-être un peu moins, mais on arrive un petit peu à avoir formé, on va dire, la plupart des praticiens qui sont dans les unités Covid.
Alors, il me semble que toutes...
Les questions ont été répondues. Des petits soucis de son et choses comme ça. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir été présents et surtout d'être présents aussi dans les unités Covid et on est à votre entière disposition.
À bientôt. Bienvenue dans l'unité. Donc de ce côté, on a l'unité Covid qui est par là-bas et le secteur donc, d'infectiologie conventionnelle qui est ici. La salle de soins avec l'équipe qui prépare tout pour les tours de cet après-midi. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Bonjour. Donc on
va commencer à faire les tours des unités Covid de tout l'hôpital. L'objectif, c'est d'aller vérifier que tous nos collègues sont bien à l'aise et surtout aussi éventuellement de proposer à certains patients des stratégies thérapeutiques, on va dire, un petit peu plus individualisées dans des cas très particuliers.
C'est ça le rôle d'un service comme celui des maladies infectieuses, d'être un petit peu le pilier de cette lutte anti-Covid au niveau de l'hôpital ?
Ah ben, je pense que c'est pleinement notre fonction, effectivement. Donc, on est là, entre guillemets, pour vraiment aider nos collègues, puisqu'on a été obligé de mobiliser quasiment tout le monde pour essayer de prendre en charge les patients Covid. Donc, nous, en tout cas, oui, on essaye d'assumer au mieux ce rôle pour vraiment ne pas les laisser tomber.
Et on commence par quel service, là ?
Alors là, on va commencer par une unité qui s'appelle le A2, qui est une unité qui a été montée de toutes pièces dans le cadre du Covid, avec des collègues qui habituellement font de la médecine vasculaire et puis aussi des médecins qui viennent d'autres unités.
Voilà, on arrive et devant nous, deux portes battantes avec deux énormes stickers Covid-19.
Alors, on va aller rejoindre nos collègues. Alors, si je m'en sors pas trop mal, je retrouve mes collègues et les voici. Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Maxime ?
Ça va.
Bon, ça va, Nathalie ?
Ouais, aussi.
Et là, je reconnais pas avec le masque.
Bon, infirmière.
D'accord.
Qu'est-ce que ça demande en plus d'appartenir à cette unité Covid par rapport à votre travail quotidien ?
Alors moi, concrètement, j'étais déjà en post-réanimation, donc j'étais déjà pas mal dans tout ce qui est respiratoire, etc. Donc là, ce qui nous a beaucoup demandé, c'était, on est une nouvelle équipe, en fait, on se connaît pas, on part de zéro, parce qu'à la base, c'était même pas un service, donc ça nous a demandé beaucoup d'adaptation sur le coup, en fait.
Apprendre à vous connaître, à travailler
ensemble.
Apprendre
à nous connaître, voilà. Réussir à trouver une dynamique, parce qu'on vient tous de services différents, donc d'un service à l'autre, on n'a pas le droit de faire les mêmes choses, enfin, ça a été compliqué. Après, on est tous jeunes, donc on sort majoritairement tous de l'école. Donc, on a vraiment tous la même optique, tous la même façon de travailler, donc ça aide. On a envie, en fait, on a vraiment envie de travailler ici. On est tous volontaires dans ce service, on a tous demandé à venir ici. Donc, c'est vrai que... Puis c'est très, très formateur, du coup.
Patrick Mismetti, je suis pharmacologue clinicien et avec une spécificité médecine vasculaire. Je suis chef de pôle des urgences réanimation et médecine vasculaire. Je coordonne un peu l'activité de cette nouvelle unité Covid qui est un plateau de 22 lits.
Qu'est-ce qu'un spécialiste des maladies vasculaires peut apporter dans la lutte anti-Covid ? Comment ça s'apprend, tout simplement ? C'est pas du tout le même environnement.
Non, c'est pas du tout le même environnement. En fait, il y a deux raisons. Un, c'est la participation à l'effort collectif pour la prise en charge du Covid. Et deux, dans les atteintes assez sévères du Covid, une des complications de cette infection, c'est de faire des thromboses, soit des thromboses veineuses profondes, et plus fréquemment des embolies pulmonaires. Et là, on retombe complètement sous le coup de notre spécialité. Même en réanimation, jusqu'à 30% des patients ont une embolie pulmonaire. On n'est pas, bien sûr, infectiologue, et cette unité, elle est co-gérée par la médecine vasculaire et par l'infectiologie. Vous avez des équipes médicales qui sont mixtes, et mutualisé sur la prise en charge. Donc on profite des connaissances de nos collègues infectiologues, ils profitent de nos connaissances thrombose, puis on essaye de prendre en charge les malades le mieux possible.
Quand est-ce que cette unité a vu le jour, tout simplement ? En début de deuxième vague ?
Début de deuxième vague, oui. Donc elle est relativement récente. Il a fallu remonter des lits, il a fallu trouver du personnel, et on a du personnel non médical qui vient de différentes origines. Comme c'est des malades un peu plus lourds, beaucoup se sont portés volontaires pour travailler dans ces unités un peu chaudes. On a beaucoup de personnel qui viennent de pneumologie, donc assez rompus sur les problèmes d'oxygénothérapie. Donc on fait un mélange de culture de prise en charge de ces patients et c'est plutôt très intéressant.
Quelles sont les conséquences pour les activités plus conventionnelles de votre service?
Alors, notre service a considérablement réduit son activité dans sa spécificité. On a reporté nos consultations, on a reporté nos bilans quand c'était faisable. Si c'était de l'urgence, bien sûr, on continue. Le problème, c'est que les hôpitaux ont été sous pression pendant la première vague. Tout l'été, ils ont essayé de rattraper le retard dû à la première vague. On attaque la deuxième vague et on va commencer à rattraper le retard de la deuxième vague après. Ce qui fait qu'il n'y aura vraiment pas eu de repos sur toute l'année 2020-2021. J'espère que les troupes vont tenir le coup.
Ce qui m'amène à la question fondamentale, le moral, le physique. Vous, à titre personnel, de vos équipes, comment vous sentez ça?
Alors, très honnêtement, quand on a vu démarrer la deuxième vague, on s'est dit qu'il faut y retourner. On était un petit peu en difficulté. Puis là, c'est reparti. Tout le monde est motivé pour passer ce cap. On espère que les premiers signaux positifs qu'on a, avec un ralentissement du taux d'incidence, avec un ralentissement des hospitalisations en dehors de la réanimation, va se confirmer. Alors ça nous aide à tenir le coup, ça c'est sûr.
Mais nous ne sommes pas encore en hiver pour autant.
Non. Mais c'est un signal positif et on prend tout ce qui est positif en ce moment.
On va monter au sixième.
Ah oui, c'est ça, ouais.
Bonjour.
Vous avez dit, vous aussi?
Ouais. Bonjour. Vous continuez à équiper plein d'unités?
Vous
continuez à équiper plein d'unités?
Oui, j'équipe le C4, mais pour l'instant.
Ah ouais, bah ouais.
Et voilà.
Donc, ici, vous avez les cadres des unités d'ORL qui sont beaucoup investis parce qu'ils ont monté une unité dans leur service et aident aussi au montage de nouvelles unités si on en a besoin.
Cette période fait qu'on retrouve un peu le sens de l'hôpital et des solidarités et de l'entraide que parfois on avait un peu tendance à masquer par d'autres projets. Et ça, c'est plutôt bien pour l'hôpital. Il parle bien, mon collègue.
Non, mais écoutez, c'est pas vrai.
Bon courage,
merci,
bonne journée
messieurs,
à vous.
Bon courage.
Merci. Au revoir.
Typiquement, une rencontre au hasard qui tombe très bien, parce qu'on est vraiment sur l'archétype de cadres qui se sont vraiment investis dans la montée de l'unité ou habituellement d'un service de chirurgie. Quoi. À cet étage, c'est tout le service de pneumologie.
On poursuit notre tournée à travers les services du CHU de Saint-Étienne. Et ce qu'on peut d'ores et déjà remarquer, c'est qu'il n'y a pas un seul service qui n'a pas à minima une unité Covid. Parfois même, il y en a deux. On nous raconte aussi qu'il y a des unités qui ont vu le jour en 24, 36 heures seulement. Donc tout ça nous donne l'idée très claire, le sentiment très évident que l'hôpital, au final, s'est levé comme un seul homme face au Covid.
Interception.
Bonjour. Qui est votre médecin aujourd'hui?
Héloïse.
Héloïse?
Ouais.
Je vais la trouver où, Héloïse? Je vais la
mettre. Alors, elle doit être dans une chambre.
Ouais, je pense. On va attendre un petit peu. Alors.
Sur France Inter.
Alors, nous allons chez madame, qui est une patiente que j'ai vue dans la nuit de dimanche à lundi, parce qu'elle désaturait, elle n'allait pas très bien. Et on lui a proposé, compte tenu dans le contexte d'immunodépression, d'avoir du plasma de convalescence, qu'elle a accepté.
Il s'agit de transfuser à des malades du plasma venant de personnes déjà contaminées mais désormais guéries pour que le patient bénéficie des anticorps. C'est une sorte de transfert d'immunité appliqué chez certains patients au système immunitaire altéré, comme cette patiente atteinte d'un cancer.
Alors, madame,
bonjour madame.
On a toujours besoin d'un petit filet d'oxygène, mais a priori voilà. Vous allez mieux?
Oui, je vais mieux. C'est vrai que ça fait une semaine que je suis rentrée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens mieux, on m'a diminué mon oxygène, voilà.
Madame, vous avez une idée de comment vous avez pu être contaminée ou pas du tout?
Je ne sais pas. J'ai gardé mon petit-neveu qui avait 6 ans, voilà, et j'ai mon beau-frère qui est venu un jour manger à la maison, mais on ne s'est pas touché. Donc, je ne sais pas du tout. Je suis allée faire les courses une seule fois. Quand on est là, qu'on a du mal à respirer, qu'on ne trouve pas le sommeil, que j'ai beaucoup de température... et qu'on se pose beaucoup, beaucoup de questions, que le moral ne va pas bien, eh bien, il faut faire très attention.
Voilà. C'était le cas samedi soir, ça n'allait pas?
Non.
C'était dimanche.
C'était dimanche. Même hier, j'étais à plus de 39, je suis restée presque 3 jours sans temps avec la température, donc épuisée, fatiguée, et là, je touche du bois. J'espère que ça va passer, et que je vais pouvoir quand même sortir, je sais que ça ne sera pas tout de suite, mais je veux sortir fatiguée, certes, mais je veux m'en sortir. Et puis c'est bien, elles m'ont fait du plasma, 4 doses de plasma. Donc ça doit bien aider. Je savais comment ça allait se passer. Donc j'ai eu aucune appréhension quand j'ai vu arriver ces poches qui ont une drôle de couleur quand même. C'est une couleur un peu marron, voilà. Mais j'ai tout de suite accepté, j'ai pas cherché. Je dis, il faut le faire. Qu'est-ce que j'ai comme solution derrière? C'est partir ou essayer?
La grosse angoisse de Madame, c'était d'aller en réanimation, hein, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, il a déjà fallu essayer quand même de discuter ça, de dire que, en tout cas, effectivement, ses besoins d'oxygène augmentaient, mais que la situation n'était pas encore catastrophique et qu'on pouvait essayer de faire des petites choses. Et donc, son dossier a été discuté au cours d'une réunion de concertation pluridisciplinaire régionale avec d'autres infectiologues, des médecins de l'EFS, des réanimateurs. Voilà, c'est pas une décision du tout unilatérale qu'on a prise. Ça a été mûrement réfléchi. Et maintenant, on va continuer à remplir régulièrement des petits tableaux de synthèse afin qu'on puisse avoir un retour sur cette thérapeutique. Voilà.
Merci à vous,
en tout cas. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci pour tout. Merci. Et merci de m'avoir écouté. Et surtout, je vais surtout redire aux gens, faites attention à vous. Soyez très, 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 très prudents. On ne se rend pas compte quand on n'est pas à l'hôpital. Quand on est à l'hôpital, on se rend compte comment on souffre, comment on a mal et combien on peut avoir peur.
Avec le service des maladies infectieuses, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension hospitalière, évidemment, pour gérer au mieux cette pression hospitalière. Il y a la dimension universitaire, nous sommes dans un CHU. Et puis il y a aussi la dimension de la recherche, où le défi consiste à inclure des patients dans différents essais cliniques en cours.
Bonjour, je suis le docteur Sandrine Agassa, je suis médecin de recherche clinique, médecin vasculaire. Et je participe effectivement au protocole Covidose. Ce protocole de recherche clinique qui est fait par le CHU de Nancy a pour objectif en fait de trouver la dose la plus adaptée d'héparine afin d'éviter une complication de la Covid qui est l'embolie pulmonaire.
C'est difficile d'inclure comme ça des patients, de les convaincre de rejoindre un essai clinique?
Je vous dirais à la fois oui et non. Oui, parce que la maladie entraîne quand même une symptomatologie qui fait que ça peut être compliqué pour un patient qui est très fatigué, qui a des problèmes respiratoires, de donner un consentement. En même temps, les patients aussi, tout comme tout le reste de la population, ont aussi envie que les choses aussi avancent. Sur 4 patients à qui on va proposer, on aura 3 patients qui vont dire oui, un patient qui va dire non.
Mais les contraintes, justement, quelles sont-elles ?
C'est principalement en fait du suivi téléphonique et les patients apprécient souvent effectivement d'avoir ce contact téléphonique après hospitalisation.
C'est un meilleur suivi aussi peut-être ?
Alors oui, c'est sûr que c'est les patients qui sont dans les protocoles de recherche clinique et c'est normal, sont suivis de façon plus rapprochée que s'ils ne l'étaient pas. Je ne veux pas dire que mes collègues cliniciens ne gèrent pas leurs patients, mais... c'est la contrepartie qui est donnée en fait aux patients, donc ce qui est logique. Alors après, parfois, les patients peuvent voir ça comme une contrainte d'être suivis de façon un peu plus rapprochée. Dans ces cas-là, généralement, ils ne vont pas accepter de participer. Et puis ceux, au contraire, qui vont adhérer, vont tout à fait accepter.
Comme j'ai un commerce, j'essaie de faire un bout de papier. Je retourne me coucher parce que la moindre papasserie sur une heure, donc il me demandait beaucoup d'efforts. Là, j'ai l'impression quand même de plus respirer et d'être moins fatigué.
Oui, avant, c'était jamais le cas, quoi. Vous étiez toujours en forme.
Les 8 premiers jours, j'ai passé à la maison, j'ai l'impression de faire que dormir. Je sentais vraiment que j'étais au bout du rouleau.
Vous êtes hospitalisé depuis combien de temps?
Ah, mais je suis arrivé qu'hier, moi. Mais hier, j'étais vraiment mal, quoi. Donc là, ça va mieux, comme je disais.
Ouais. Donc, vous avez accepté de participer au protocole de recherche Covidose.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a motivé et est-ce que vous avez des questions sur cette étude, sur le suivi dans les études, des choses comme ça?
Alors, des questions, non. Je suis pas assez calé. Par contre, oui, j'accepte pour pouvoir... De toute façon, il faut qu'on avance. Ça reste que de la piqûre. Enfin, voilà. Le but, c'est d'avancer quand même. Parce que voilà, moi, je suis jeune, entreprise, c'est merde ce truc. Et je suis jeune, quoi. J'ai 54 ans. J'ai jamais été comme ça. De toute façon, vous n'êtes pas pour avancer, on n'avance jamais, quoi.
Ouais, d'accord.
Vous avez du mal à nous soigner, enfin voilà, quoi. C'est compliqué quand même.
Je vais juste vérifier que vous ayez tout bien signé au bon endroit.
J'ai déjà rempli, ça c'est.
Vous l'avez déjà rempli, oui.
Oui, ça c'est.
C'est votre exemplaire, voilà. Et vous l'avez rendu à l'infirmière.
Voilà.
Ok, mais je voulais vérifier que tout ça.
Le consentement.
Ah, vous n'avez pas signé, ouais. Alors normalement, il faut. Hein.
Ah oui, d'accord. J'ai l'impression qu'il est.
Ah, faut le garder, hein. La recherche clinique, c'est comme les impôts. Hein. Ah bah, non, c'est nous.
Il faut reprendre l'habitude, quoi.
Oui, exactement, on est tous dans le même bateau.
Covid, immersion dans un hôpital en première ligne, c'était un reportage de Vanessa Descoureaux, au cœur des équipes du CHU de Saint-Étienne dans la Loire. Reportage d'ores et déjà disponible sur franceinter.fr. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier, mixage Manon Houssin. La semaine prochaine, tout autre chose, nous nous intéresserons avec Géraldine Allot aux nouvelles façons de consommer. En vrac, plus sain, moins coloré, et aux stratégies des distributeurs et des industriels. Dans quelques instants, on retrouve Eva Bester et son invité, Daniel Gossens, auteur de la BD Georges et Louis chez Fluide Glacial, pour Remède à la mélancolie.